Seigneur, ce matin, tu nous as rassemblés dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, écouter ta parole qui donne la vie. Nous voulons, Seigneur, maintenant communier avec toi autour de cette parole. Et notre prière en ce moment, Seigneur, c'est que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole de vie que tu as pour nous. Que ton nom, Seigneur, se taise et que tout ce qui pouvait nous distraire dans ces lieux, Seigneur, maintenant libère. Que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance à Christ et à Christ seul. Et que nos cœurs, Père éternel, reçoivent ta parole. Laisse qu'elle transforme notre vie et nous donne d'être meilleurs, Seigneur notre Dieu, que par le passé. Bénis, Seigneur, ce moment et que la puissance de ton Saint-Esprit encore se manifeste. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas que ce soit un homme qui parle. Mais nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, parle à nos cœurs encore ce matin. Merci Seigneur de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 10, 22 à 30. Je lis pour nous dans la version Lui Second. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen.
Je suis là. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez une fois de plus mon bonjour et un bonjour spécial à tous les chrétiens du dimanche de Sainte-Seine. Il y a de cela environ 3 dimanches, nous célébrions la résurrection de Jésus. Et depuis 2 dimanches, les 2 dimanches passés, nous avons parlé, nous avons vu les textes qui nous relataient l'apparition de Jésus à ses disciples. D'abord les disciples dans la chambre, en l'absence de Thomas, et puis dans la présence de Thomas. Et dimanche dernier, l'apparition de Jésus à ses disciples au bord de la mer, pendant qu'ils étaient en train de pêcher. Et aujourd'hui, nous avons un texte qui semble être décousu, en fait, de la suite du texte, mais qui en réalité est étroitement lié avec les précédents textes et reste dans le contexte de la période liturgique dans laquelle est-ce que nous sommes. Dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est au temple. Et l'histoire nous dit que c'est un jour de la célébration de la fête de dédicace. Pour la petite histoire, en l'an 65 avant Jésus-Christ, il y avait le roi Antiochus Épiphane, le 8e roi de Syrie, qui était entré dans le temple de Jérusalem et avait saccagé tout dans le temple de Jérusalem, brûlé tous les manuscrits sacrés qu'il y avait dans le temple et pillé tous les objets précieux qu'il y avait dans le temple de Jérusalem. Il y a un homme nommé Judas Maccabée qui avait organisé la reconsécration de ce temple, parce qu'au niveau du lieu saint, ce roi avait fait bâtir une statuette de Jupiter et avait obligé le peuple à offrir en sacrifice à Jupiter dans le lieu très saint du temple de Jérusalem des porcs. Et vous connaissez la symbolique du porc dans le milieu juif, n'est-ce pas? C'était comme une souillure dans le temple de Jérusalem. Et on avait donc reconsacré à nouveau le temple au Seigneur et Jésus était donc au temple de Jérusalem pendant cette célébration. Et pendant que je lisais cette petite histoire, je me suis rendu compte que ce roi qui avait profané ainsi le temple de Dieu, en réalité est mort d'une manière très tragique. Il n'a fait que 8 années de règne et sa mort a été une catastrophe. Comme pour dire qu'on ne peut pas rester impuni lorsqu'on profane les choses sacrées. Et je me suis rendu compte, pendant que je lisais encore cette histoire, il me revenait à l'esprit l'histoire de la cathédrale de Paris, que beaucoup ont reçu les images dans leur téléphone, n'est-ce pas, de toutes les abominations qui ont été révélées au grand jour concernant cette histoire. Et on se rend compte que petit à petit, dans l'histoire, des sectes occultes ou bien des personnes mal intentionnées se sont infiltrées dans la vie de l'Église et même dans les temples pour transformer ces lieux en réalité en des lieux d'adoration de Satan plutôt que des lieux de prière véritables. Et ceci doit davantage attirer notre attention sur un certain nombre de faits et sur notre attitude en tant que chrétien. Tout à l'heure, je saluais particulièrement les chrétiens du dimanche de Sainte-Seine. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez avec moi qu'on a de la peine à s'asseoir sur les bancs, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est aujourd'hui seulement qu'ils doivent venir à l'église. Parce qu'il faut communier avec le Seigneur. On a pensé que la communion est importante. Mais on n'a pas pensé à la relation que devons avoir avec Dieu d'une manière permanente qu'il faut entretenir. Dieu ne nous veut pas seulement autour de sa table, mais Dieu nous veut en permanence dans sa présence. Pendant que nous quittons les temples pour être occupés à autre chose, il y a d'autres personnes qui cherchent à s'installer. Et vous savez, aujourd'hui, l'un des endroits où les sectes occultes essaie de s'installer, de gagner du terrain, c'est dans les temples. Et nos autres n'est pas épargné. Si vous n'êtes pas à la brèche en train de prier, ne soyez pas surpris que dans quelques années, on dit que quelqu'un a cru dans la paroisse de Tam, on vous dit non. Parce que ce sera devenu la catastrophe. Où sont les chrétiens pendant que ces choses s'installent progressivement? Nous nous souvenons, il y a de cela quelques années ici. Il y a quelqu'un qui, d'une manière fugitive, s'était installé au niveau du conseil d'anciens, n'est-ce pas? Mais qui était un adepte, un chargé de mission au sein de cette communauté. Dieu a permis que celui-là soit démasqué et soit mis de côté. Mais combien sont encore présents parmi nous dans l'optique de détruire et de déstabiliser cette communauté? Pendant que nous sommes là à discuter sur qui a plus d'onction que qui, pendant que nous sommes là à regarder les têtes des pasteurs et à dire la tête de tel pasteur ne me plaît pas, il y a ces personnes qui sont en train de travailler dans l'ombre pour détruire et déstabiliser la vie de la communauté. Pendant que nous sommes là à trier ce que nous allons faire dans la vie de la communauté, pendant les activités et les programmes, Satan essaye de semer la division et de détruire la vie de la communauté. C'est une réalité. Pendant que je travaillais dans un village à Balessin, nous avons assisté à une dédicace d'un temple qui avait été construit par une élite de la localité. Mais pendant la nuit de la veille de la dédicace, avec une équipe d'intercesseurs et d'évangélisation qui était venue de Yaoundé, nous avons passé la nuit à prier. D'abord pour consacrer ce temple spirituellement au Seigneur. Vous savez ce que nous avons reçu de ce temple? Il y avait plein de statuettes. Ce n'était pas visible, mais c'est des choses spirituelles qui devaient contrôler la vie des fidèles dans cette communauté. Et ce sont des choses qui sont une réalité. Pendant que vous êtes là, vous fuyez les programmes, vous fuyez les moments de prière. Satan gagne du terrain. Et après, vous allez vous plaindre. Vous avez l'impression que les choses ne marchent pas. Vous allez commencer à vous décourager. C'est parce qu'il est à la manœuvre. Mais j'ai envie de dire aux petits sorciers qui sont dans la salle, qui sont venus dans le but de déstabiliser, au nom de Jésus, vous ne pourrez remporter la victoire dans cette communauté. Il est important, bien-aimés, que nous reprenions au sérieux notre responsabilité en tant que chrétiens. C'est notre maison de prière ici. Et personne d'autre, en dehors de Dieu, n'a le droit de citer dans ce lieu. Jésus était dans le temple. À l'occasion de cette fête de dédicace, où on a reconsacré à nouveau le temple, après toutes ces souillures qu'il y avait eu dans le temple, on l'a reconsacré à nouveau au Seigneur. C'est pendant cette fête que voilà les Juifs qui l'entourent. Le texte nous dit d'une manière claire qu'ils ont encerclé Jésus. Comme pour lui dire aujourd'hui, tu ne vas pas nous échapper. Tu vas nous dire la vérité au sujet de ton identité. Qui es-tu réellement? Pourquoi est-ce que tu gardes notre esprit en suspens jusqu'à présent? Et vous savez que pour entourer quelqu'un de la sorte, il faut l'avoir filé, n'est-ce pas? Sûrement, ils étaient en train de guetter. Ils observaient comment est-ce que Jésus était en train de marcher dans son temple. Quand il s'est rendu compte qu'il était dans le portique de Salomon, un endroit qui est un peu plus grand, espacé, subitement, on voit un groupe de personnes qui l'entourent. Et il lui pose la question, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » En réalité, ce n'est pas le Christ qui a gardé leur esprit en suspens, mais c'est leur incrédulité. Ils ont refusé d'admettre que ce qu'ils avaient vu était vrai. Ils ont refusé d'admettre ce que l'Esprit leur révélait véritablement au sujet de la personne de Jésus. Et Jésus ne va pas leur répondre d'une manière directe. Je suis le Christ. Je suis le Messie que vous attendiez. Mais Jésus va indexer ici, va les renvoyer, autant pour moi, vers les miracles et les œuvres qu'il accomplit. Il va leur dire, regardez autour de vous ce que j'ai accompli pour la gloire de mon Père. Ces choses-là témoignent pour moi. Et pendant le ministère de Jésus, nous rendons compte que véritablement, les aveugles ont vu, Les boiteux ont marché, les sourds ont commencé à entendre et les muets ont parlé. Une chose que seul Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Comment vous pouvez expliquer et justifier que quelqu'un qui est né aveugle par l'imposition des mains retrouve la vue si ce n'est quelque chose qui vient de Dieu? Et ces choses aussi se passent au milieu de nous. Mais combien de personnes sont sensibles à la voix de Dieu? Combien de personnes acceptent de croire que Dieu est vivant et qu'il agit au milieu de nous et acceptent de se donner véritablement à Christ pour le laisser diriger notre vie? Pourquoi nos cœurs sont si incrédules et refusent d'admettre la puissance de Dieu? Jésus est ressuscité et il est véritablement vivant. Et le texte d'aujourd'hui donc nous interpelle à croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et à la vie maintenant. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas une chose dans ta vie que Satan avait placée que Jésus ne puisse ressusciter. Est-ce que tu veux croire que véritablement Christ est celui-là qu'on attendait pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous donner d'être réconciliés avec le Seigneur pour toujours? C'est lui, Jésus, qui a accepté toutes ces choses, la mort honteuse de la croix, pour donner un sens à ta vie, pour donner la vie éternelle à ta personne. Bien-aimé, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, cesse d'être incrédule, mais crois que Jésus est vivant et il agit. Jésus va pousser le bouchon encore un peu plus loin et il va dire à ces juifs qui étaient autour de lui, si vous n'avez pas cru, en réalité c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'avez pas cru parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne faites pas partie de ma bergerie. Voilà des gens qui ont grandi dans la synagogue. Tous les jours, ils sont présents dans la synagogue. Mais Jésus leur dit, vous ne faites pas partie de ma bergerie. Et combien de personnes ici sont là peut-être à l'église tous les dimanches, mais Dieu ne les connaît pas comme étant ses brebis. Parce que réellement, ils n'ont aucune relation d'intimité avec lui. Tant que tu ne fais pas partie de la brebis de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, à la fin du chapitre, nous dit que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu et tu n'as pas compris un certain nombre de choses dans ta relation avec le Seigneur, comment veux-tu comprendre les merveilles de Dieu dans ta vie? Tu ne peux non plus expérimenter les bénédictions du ciel tant que tu ne fais pas partie de la bergerie du Seigneur. Christ prend soin de ses brebis. Et un certain nombre de choses nous est dit dans le texte concernant la relation que Christ a avec ses brebis. Dieu les connaît intimement. Et pour chacune de ses brebis, il a de la peine et il prend soin. La première des choses qu'il dit au sujet de sa relation avec ses brebis, c'est que ses brebis entendent sa voix. Ses brebis entendent sa voix. Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur encore aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Seigneur est devenu muet entre-temps? Pour vous, pour votre vie, vous n'écoutez plus sa voix. Posez-vous la question, est-ce que je suis dans la bergerie du Seigneur? Est-ce que je fais partie de ses brebis? La brebis du Seigneur aime passer du temps dans la présence du bon berger qu'est Jésus. Est-ce que vous aimez passer du temps dans la présence de Dieu? Si vous êtes dans toute forme de distraction, éloigné de votre berger, comment est-ce que vous allez entendre sa voix? Si vous êtes séduit par les choses de ce monde qui vous distrait et vous écarte de sa volonté, de sa présence, comment est-ce que vous allez entendre sa voix? Si vous êtes plus attentif à la voix de ce siècle, des informations de ce monde qui en réalité nous distrait parfois, comment est-ce que vous allez écouter la voix de Dieu? Comment vous allez écouter la voix du bon berger quand vous écoutez plus la voix des hommes que celle de Dieu? Comment? Christ les connaît. Non seulement ils entendent la voix du Seigneur, mais Christ les connaît. Il les connaît intimement. Dieu connaît chacun d'entre nous ici. Et la Bible dit d'une manière claire que Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit. Autrement dit, il a mis sa marque en nous. Exactement comme les enfants du malin ont leur marque sur, ont la marque du malin sur leur vie, le 166. Les enfants de Dieu ont la marque de Dieu en eux. Et cette marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit. Des 7 milliards de personnes qui peuplent de la terre, Dieu connaît personnellement ceux qui lui appartiennent parce qu'il les distingue par la présence de son Saint-Esprit en eux. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Il nous a été annoncé un programme tout à l'heure pour le mois de juin, la semaine du Saint-Esprit. S'il vous plaît, disposez de votre temps pour être présent pendant ce moment. Nous avons des sérieuses difficultés dans notre relation avec le Seigneur parce que nous manquons la puissance de Dieu en nous, qu'est le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui nous permet de discerner un certain nombre de choses. Et tant que nous ne l'avons pas, il y a des choses pour lesquelles est-ce que nous ne pourrons jamais, que nous ne pourrons jamais expérimenter. On a besoin de ça. Venez à ce programme. Recevez. Disposez-vous à recevoir la puissance de Dieu dans votre vie pour votre transformation totale. Venez au programme d'enseignement et d'édification. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce dans une communauté comme celle-ci, la paroisse de Tamja, on doit crier après les gens pour qu'ils viennent aux enseignements. Jeudi suis passé, nous étions une trentaine à l'enseignement ici. Jeudi dernier, nous étions à peine une centaine à l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes pleins. Je suis sûr que les statistiques d'aujourd'hui vont donner environ 500 personnes dans cette communauté. Aujourd'hui, pour ce culte. Où sont les personnes dans les moments d'édification? Comment est-ce que vous voulez connaître Dieu si vous ne disposez pas du temps pour lui? Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent. Parce que ceux-là apprennent à sacrifier du temps pour demeurer dans la présence de Dieu. La troisième des choses, ces brebis le suivent. Elles ne suivent pas un autre berger. Elles suivent le Christ. Elles se mettent à sa suite. Parce qu'elles ont entendu la voix du berger, elles se mettent à sa suite. Tu es à la suite de qui, bien-aimé? Qui est-ce que tu es en train de suivre? Est-ce que tu es en train de suivre les personnes qui t'appuient dans l'église, racontent des ragots qui vont diviser la communauté, plus que tu n'écoutes l'évangile qui te donne la vie et qui te libère? Est-ce que tu es là à écouter les problèmes qui surgissent dans les communautés et qui quelque peu est en train d'éteindre la flamme dans ton cœur? Vous savez, il y a des informations quand on reçoit. On a l'impression que c'est simplement des informations, mais ça affecte notre âme et notre esprit et notre manière de percevoir les choses. Et si nous donnons notre foi à ces informations que nous avons reçues, elle fait diminuer d'une manière considérable notre attachement au Seigneur. Écoutez ce qui vous édifie. Suivez le bon berger. Suivez celui qui s'est sacrifié à la croix pour vous. Vous n'êtes pas dans cette communauté pour le pasteur Raymond, encore moins pour le pasteur Edouard et encore moins pour le pasteur Mathieu. Vous êtes là parce que vous suivez le Seigneur Jésus. Et si vous veniez ici pour nous, ne venez plus. Restez à la maison. Si vous venez dans ce temple, c'est pour suivre le Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a convoqué dans ce lieu. C'est lui qui vous appelle dans sa présence parce qu'il vous veut à ses côtés. Il vous veut avec lui. Ne regardez donc plus à tout ce qui se passe à côté, mais focalisez-vous sur Jésus. Suivez sa voix. Suivez ses instructions. C'est lui qui vous conduit jusque dans la vie éternelle. Et il le dit, je leur donne la vie éternelle. Comme pour dire que la vie éternelle n'est pas un mérite, bien-aimé. Ce n'est pas par nos œuvres que nous obtenons la vie éternelle. Mais c'est Christ qui nous donne cette vie éternelle. C'est une vie qui est gratuite, gracieusement offerte par Christ à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont ses brebis. Gare à ceux donc qui pensent que c'est parce qu'ils donnent beaucoup d'offrandes à l'église ou que c'est parce qu'ils ont construit des temples, ils font des dons dans des orphelinats, qu'ils ont la vie éternelle. Cela ne vous aidera pas beaucoup devant la présence de Dieu quand il viendra pour prendre ses brebis. Cela ne pourra pas garantir votre salut. Il faut que vous fassiez partie de la bergerie du Seigneur, que vous fassiez partie de ses brebis. C'est lui donc qui nous donne la vie éternelle et le Seigneur nous garantit une chose, c'est que nous ne périrons jamais. Une manière de dire que si vous êtes dans la bergerie du Seigneur, vous êtes sûr que vous avez la vie éternelle. Ce n'est plus une question de doute ou bien de « on verra quand on va mourir ». C'est une question d'assurance dès maintenant. Si vous faites partie de la bergerie du Seigneur, rien ne peut vous arracher de la main du Seigneur. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Et le texte nous dit que rien ne peut nous ravir de la main de Christ. Et que rien ne peut nous ravir de la main de notre Père, de Dieu. Si vous êtes en sécurité dans les mains du Fils, dans les mains du Père, imaginez combien votre sécurité est grande. Pourquoi donc paniquer et chercher encore la sécurité là où il n'y a pas? Quand Dieu vous garantit que dans ses bras, personne ne peut vous arracher. Rien et absolument rien. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, au travers le texte de ce jour, pour nous résumer, nous invite vivement à faire attention parce que l'ennemi essaye de gagner du terrain dans l'église. Il n'est pas content quand des personnes sont dans la prière, quand des personnes s'édifient dans les enseignements. Et il fera tout pour vous éloigner de ces choses qui vous gardent connectés à lui. Choisissez de demeurer attaché au bon berger qu'est Jésus. Et si jusqu'à présent, vous ne faisiez pas partie de sa bergerie, vous ne faisiez pas partie de ses brebis, le Seigneur vous donne l'occasion aujourd'hui d'entrer dans sa bergerie. Il suffit simplement de lui dire, Seigneur, je ne veux plus suivre les autres maîtres, je ne veux plus suivre les autres bergers qui me distraient et m'éloignent de ta voix, mais je veux te suivre, toi, le bon berger, à partir d'aujourd'hui. Si vous le faites, si vous le dites d'une manière sincère, Christ vous accepte. Il vous accueille dans sa bergerie. Le Seigneur veut nous inviter aujourd'hui également à sortir de l'incrédulité, mais à croire que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et sa résurrection est capable de transformer toute notre vie. Faisons-lui confiance pour notre vie et que nos regards restent focalisés sur lui et non pas sur un homme. Qu'il bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen. Je nous invite à prier, bien-aimés. Je voudrais particulièrement que pendant ce moment, tu puisses regarder toi-même personnellement à ta relation avec le Seigneur. Quand tu vois ta marche avec le Seigneur chaque jour, est-ce que c'est une marche sérieuse qui est digne de quelqu'un qui a été racheté par le Christ? Présente au Seigneur tes négligences. Dis au Seigneur que tu es désolé et que tu regrettes de t'être éloigné de sa face jusqu'à présent. Dieu ne veut pas des personnes qui viennent seulement ponctuellement dans sa présence, mais il nous veut d'une manière régulière dans sa présence. Il veut garder cette relation de proximité avec nous chaque jour. Renouvelle ton engagement à suivre le bon berger qu'est Jésus. Dis, Seigneur, je veux te suivre. Dis au Seigneur de te rendre sensible à sa voix. Afin de la distinguer au milieu des multiples voix que nous pouvons entendre aujourd'hui. Dis au Seigneur, je doutais de ce que tu fais partie de sa bergerie. Seigneur, aujourd'hui, je veux faire partie de tes brebis. S'il te plaît, Seigneur, reçois-moi comme une de tes brebis. Je te sers de le total contrôle de ma vie. Dis-lui merci pour la vie éternelle qu'il te donne. Dis-lui merci pour la sécurité qu'il te garantit dans ses mains, dans les mains du Père. Père, merci pour ta parole. Vivement qu'elle porte des fruits dans nos vies. Il nous donne, Père éternel, notre Dieu, notre Roi, de croire en toi, de te faire confiance et de soupirer, Père éternel, notre Dieu, après la manifestation de ta grâce dans notre vie. Merci Seigneur notre Dieu de recevoir, Seigneur, quelques personnes qui ici, Seigneur, notre Dieu, s'engagent à devenir, Seigneur, notre Dieu, membre de ta bergerie. Reçois-les, Seigneur, dans ta grâce et bâtis, Seigneur, leur vie. Merci, Seigneur, pour la sécurité. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que tu nous donnes. Qu'à partir de ce jour, Père éternel, chacun de tes enfants ici présents expérimente, Père éternel, quelque chose de spécial avec toi. Crée dans leur cœur, Père éternel, la soif de passer du temps avec toi et, Seigneur notre Dieu, dans la vie en communauté. Merci, Seigneur notre Dieu, de te glorifier, de nous exaucer au-delà de ce que nous t'avons demandé. Amen.